Le grand témoin. Le grand témoin. Louis Dauphren.
Et si on redonnait tout son sens à la fête de Noël, vous y êtes certainement sensible, puisque précisément, notre antenne vous le dit tous les jours, la vie prend un sens et pas n'importe lequel. Alors c'est vrai que le moment de Noël est toujours un peu, c'est vrai, un moment de joie, mais aussi un moment de souffrance, dans la mesure où quand tout va bien, bon bah tout va bien, et puis quand tout va mal, ça va encore plus mal pour les personnes qui souffrent de solitude, qui sont dans, si je puis dire, les épreuves. Alors c'est aussi un temps où on se retrouve. C'est un temps d'intimité, peut-être le contraire d'ailleurs du mensonge publicitaire, du déluge de cadeaux et tout cela. C'est vrai que c'est très important, mais ce n'est peut-être pas l'essentiel. Alors il y a un événement qui cristallise la fête de Noël, la nativité. Et la nativité, son expression la plus flagrante, eh bien, c'est la crèche. Il y a un événement à Paris qui va se dérouler samedi et dimanche prochain qui s'appelle la crèche vivante, précisément l'étoile des bergers, une animation spectacle qui se déroulera dans le premier arrondissement, place Dauphine, à partir de 15h dès samedi. J'imagine que vous y serez, parce que c'est un enjeu dans l'espace public de montrer aussi ce qui se passe le jour de Noël. On va parler de ce spectacle, de la façon dont il a été organisé, de ses objectifs, son ambition, du public qu'il veut aussi conquérir, si je puis dire, avec son organisateur principal, Christophe Eoch Duval, qui est avec nous, et puis également des personnes qui participent à ce spectacle, en particulier celle qui va jouer la Sainte-Vierge, Céline Rondol, qui est avec nous, et Saïd Ojibou, humoriste, qui jouera un berger. Allez, bonjour à tous les trois, parce que bonjour. Le grand témoin se décline au pluriel. Bonjour Christophe Eoch Duval.
Et bonjour Radio Notre-Dame, bonjour aux auditeurs. En ce matin du 18 décembre, c'est le jour de l'appel du 18 décembre.
Voilà, l'appel du 18 décembre. Voilà, vous avez bien rodé votre discours de communication. Bonjour Céline Rondol.
Bonjour.
Vous êtes comédienne amateur, je précise. Hein. Bonjour oui. Saïd Ojibou.
Bonjour, vous êtes humoriste, très heureux d'être ici.
Humoriste professionnel quand même, Saïd.
Non, pas professionnel.
Pas professionnel. Quand même, vous avez déjà
vient,
une expérience
vient,
du spectacle.
Ça vient. Oui, quand même. Ouais. J'en ai quand même pas mal.
Alors d'abord, vous allez me raconter, pour l'Étoile des Bergers, comment est-ce que vous vous êtes rencontré, Christophe?
Eh bien, j'ai cherché évidemment bien sûr des comédiens et des comédiennes qui sont d'abord venus de ma troupe de théâtre, voilà la compagnie Richard, qui effectivement des comédiens qui viennent d'un peu partout, de Limoges, de Toulouse. Je salue Mohamed Mach qui jouera Joseph. Et puis on a cherché évidemment aussi à compléter cette troupe par des amis voilà qui sont sur Paris. Et alors, une rencontre extraordinaire, par exemple effectivement avec Céline qui va jouer Marie. Et j'avais besoin d'une très belle voix, d'une très belle fille. Je crois que, Louis, vous pouvez témoigner auprès des auditeurs, c'est réussi. On verra tout à l'heure aussi qu'elle a une très belle voix parce qu'elle va nous faire un extrait du chant Magnificat et en hébreu. C'est très important de lire parce qu'elle va le chanter peut-être comme Marie l'a chanté elle-même. Voilà. Et puis Saïd, évidemment, bien sûr, c'est une rencontre aussi extraordinaire. Saïd a plein de talents. Il est pasteur, il est acteur aussi, et donc par conséquent, je lui dis, viens jouer le berger.
Donc vous ne vous connaissiez pas avant que ce projet prenne naissance?
Si, en grande partie, nous connaissions tous les uns les autres, mais voilà, un projet, ça a pris 2 ans pour monter ce projet de crèche vivante sur la place publique à Paris. Voilà, 2 ans de négociations. Je remercie évidemment, bien sûr, au passage, le maire du premier arrondissement, Jean-François Legaret, qui nous a beaucoup facilité les choses, mais c'est long et compliqué. La préparation du spectacle, les répétitions et tout, c'est quelque chose qui est calé depuis 2 ans. Voilà. Donc c'est 2 ans de boulot dont on va voir l'accomplissement samedi et dimanche. C'est très important que les auditeurs viennent en nombre. Pourquoi ? Parce que c'est un événement depuis 1939. Il ne s'était plus joué de mystère. Voilà, nous nous rattachons à la tradition en tant que compagnie de théâtre. Nous nous rattachons en faisant ce spectacle à la tradition des mystères du Moyen-Âge. Et le dernier mystère a été joué sur l'île de la Cité en 1939. Vous vous rendez compte?
Et là, vous voulez renouer avec cette tradition?
Nous allons renouer avec cette tradition.
Ça veut dire que tous les ans, si ça marche, on peut imaginer que ça continue?
Tous les ans, si Dieu veut, si ça marche, si le public nous suit, si les donateurs nous suivent, et je remercie au passage la Fondation Notre-Dame, je remercie Magnificat qui nous suivent, et d'autres encore, la société Novelty, qui bien sûr nous aide. Si on nous suit, si on nous aide, si on nous soutient, on en refera. On en refera. Et pourquoi ce qui est important, c'est de la jouer sur la place publique. La crèche, bien sûr, il faut qu'elle soit au fond de l'église ou au fond du temple, c'est possible. Mais au fond, finalement, elle n'est pas en confrontation avec, voilà, avec la vie, avec le monde.
Avec le jugement du public.
Voilà. quelque part, nous sommes une troupe de théâtre parfaitement laïque. Moi, je ne demande absolument pas l'acte de baptême à mes comédiens. J'ai des comédiens qui ne sont pas chrétiens, pas croyants, pas pratiquants. Et ça ne me gêne pas du tout. Et ça ne les a surtout pas gênés quand je leur ai dit « Allez, on monte cette année une crèche vivante. » Oh, tout ce monde m'a dit, y compris un de mes comédiens qui est musulman, « Super !» Super idée, voilà. Donc, mais en même temps, on a écouté ou entendu ce qu'a dit le pape François, et ça ne va pas gêner de façon saillie de ce que je viens de dire. C'est-à-dire, sortez de vos sacristies. Et bien nous aussi, on sort de notre théâtre. On sort de notre théâtre et on va dans la rue.
Pourquoi Place Dauphine ?
Écoutez, Place Dauphine, c'est providentiel. Ce serait trop long de le raconter aux auditeurs, mais quand on a monté le dossier avec la ville de Paris, ce n'était pas du tout Place Dauphine que nous avions proposé. Voilà. Et puis les choses ont été compliquées sur d'autres lieux. Et puis on était presque prêt à jeter l'éponge. Voilà. Et un jour, Jean-François Legaret m'appelle et me dit « Écoutez, finalement, je vous propose comme solution Place Dauphine. » Je lui dis « Écoutez, je ne l'avais jamais pensé, je ne l'avais jamais espéré. » Voilà.
Céline, alors la Vierge Marie, c'est vous.
Bah oui, c'est moi. C'est moi, c'est
vous avez
moi,
choisi,
moi.
On vous l'a proposé ?
Alors non, on me l'a proposé et... C'est une grande grâce au final parce que c'est aussi une belle prise de risque. Comme vous l'avez si bien dit, je ne suis pas comédienne, je suis comédienne amateur.
Déjà un peu comédienne quand même. Alors.
Oui,
même
oui, bien sûr. Ah oui, non, mais c'est la grande, grande passion de ma vie. Je suis chanteuse lyrique, chanteuse liturgique, et donc voilà, c'est un rôle qui me touche énormément. Parce que c'est un rôle qui a une portée symbolique très très forte. C'est un rôle qui a une portée, j'ai envie de dire, presque politique. Je me permets de saluer le père Thierry Vernet, avec qui j'ai beaucoup travaillé l'hébreu, avec qui j'étais encore hier soir et qui me disait « Mais le Magnificat que tu vas chanter, c'est un peu un chant révolutionnaire quand même. Hein. » Voilà, c'est un chant qui porte la voix de, actuelle, tout ce qui se passe dans cette société. Donc voilà, je suis extrêmement touchée que Christophe m'ait fait la confiance. Parce que c'est aussi une confiance, mais accorder cette confiance, de me prendre dans cette merveilleuse troupe pour faire des merveilles le week-end prochain.
Pour faire des merveilles, on va écouter peut-être le Magnificat.
Juste une explication avant que
Christophe te donne l'explication.
Voilà. Le spectacle s'appelle L'Étoile des Bergers, mais il a un sous-titre très important, Korav Aroim. Ça veut dire L'Étoile des Bergers, mais en hébreu. Et on verra, les spectateurs verront que le spectacle est d'ambiance judaïsante. Il va y avoir la danse d'Israël, il va y avoir de l'hébreu, et Marie va chanter le Magnificat, effectivement, comme peut-être, enfin Marie, Céline, pardon, je l'interpole maintenant, peut-être
elle
comme
tellement
Marie,
son rôle.
La vraie Marie, l'a chanté. Alors, en araméen, mais là, on va lui faire en hébreu. Écoutez, c'est merveilleux.
Ça, c'est vous qui l'avez choisi. On va d'abord l'écouter, puis on en discute.
Terumem nafshi. Et Adonai, v'etagi ruchi, b'Elohei ishi, ki rabuni, amatu, alo me'ata, kol ador.
C'est donc le Magnificat en hébreu.
Une partie du Magnificat en hébreu que va chanter effectivement Céline dans le spectacle.
L'air du Magnificat, parce qu'il y a plusieurs interprétations, non ?
Oui, alors on a complètement fait une création. Mmh. On a complètement fait une création, puis effectivement, qui sera supportée en plus à la harpe, parce que je ne l'ai pas dit, mais il y a 50 artistes dans ce spectacle.
Vous poser la question, voilà. Combien de personnes
mobilisées ? Il y a 10 comédiens à texte, puis ils disent tous leur texte en direct. Hein. C'est pas du playback, c'est pas de la voix off. Il y a 20 danseurs de danse Israël. Il y a 5 musiciens qui sont mes amis des Dany Trouver, donc compagnie de musique médiévale, mais qui se sont adaptés à la musique d'Israël. Il y a aussi les animaux, c'est très important. 2 dromadaires. Il y a l'âne, la vache, bien sûr, c'est
normal. Et vous déplacez avec un
cirque. Il y a une vingtaine de moutons qui viennent avec, avec l'association pour le développement du chien de troupeau.
On en avait parlé il y a quelques jours. Mais...
Voilà, c'est l'association de développement du chien de troupeau et de l'éco-pâturage en Seine-et-Marne. Qui va venir avec 20 moutons, leur chien de berger. Et on voit aussi, d'ailleurs, de 15h à 17h avant le spectacle, faire des animations pastorales.
Combien d'acteurs est-ce que ça mobilise, ça ?
Ah ben, c'est 50 acteurs, 50 acteurs.
Non, mais d'acteurs, je veux dire, d'acteurs, de talents, en fait, différents, d'entreprises, de...
Il y a la chorale. Alors j'ai oublié de lire aussi. Il y a la chorale, une dizaine de choristes. Alors il y a du chant. C'est toutes les palettes du spectacle vivant.
Mais c'est vous qui avez choisi, Christophe. C'est vous qui avez choisi.
En son et lumière.
Et c'est vous qui avez écrit le spectacle et qui avez choisi.
Alors écoutez, j'ai pompé affreusement sur Saint-Luc.
Ça va. Mais
il
n'y
a
pas de d'auteur.
Il n'y a plus de copyright.
C'est fidèle au texte.
C'est en vente libre, si je puis dire. Saïd, alors vous êtes un notable berger. J'ai dit berger tout à l'heure, mais c'est notable aussi.
Oui, un notable berger. Je suis très heureux, en tout cas, de pouvoir participer à cette aventure qui, pour moi, est plus qu'importante, puisque Noël, c'est comme vous avez dit tout à l'heure, ce n'est pas que des cadeaux. Il y a aussi un message d'espérance dans une France, en tout cas, qui aujourd'hui se noie dans la désespérance. Et Noël, c'est aussi... pour moi, une grande rencontre que j'ai faite il y a plus de 25 ans maintenant, parce que je me suis converti il y a 25 ans. Et Noël, j'ai envie de dire, c'est tous les jours. En tout cas, je suis très content de la diversité des comédiens, des artistes, etc. Et de pouvoir aussi rendre un petit peu ce message, je dirais, accessible et visible. Et le fait que ça se joue à l'extérieur, en tout cas, je pense que c'est très, très important, surtout aujourd'hui à Paris, avec toutes les manifs que nous avons eues. Là, ça sera une autre manif d'une autre ampleur et puis avec un autre message qui pourra en tout cas interpeller, toucher et puis en même temps conscientiser un petit peu certaines personnes sur ce message qui est plus d'actualité aujourd'hui.
Alors que fait un notable berger, la Vierge Marie, on imagine ? Quoi qu'on puisse se dire, finalement, une crèche dans l'esprit des gens, c'est assez statique. Alors qu'est-ce que vous allez faire pour animer, pour rendre vivant cet événement ? Est-ce que vous êtes amené, parce que pour répéter, vous avez répété sur place, dans les conditions réelles, parce que j'imagine que c'est quand même assez compliqué.
On a fait les deux vivants, bien sûr. Hein, la répétition, ça se fait à la fois en salle de théâtre et puis sur place, effectivement.
Mais surtout avec les animaux.
Voilà. Sur place, c'est compliqué, évidemment, parce que c'est une place publique. Elle nous a été octroyée que rarement. Et en l'occurrence, nous aurons une dernière répétition vendredi précédent le spectacle. Voilà. Donc, c'est les conditions réelles, évidemment, bien sûr. On va surtout les mettre en œuvre. Samedi et dimanche, 22, 23. Alors, ça bouge beaucoup. La scène, elle fait 25 mètres de large sur 10 mètres de profondeur. C'est du vrai théâtre, hein, puisqu'on va jouer depuis l'Annonciation jusqu'à l'Adoration des bergers. Il y a un fil conducteur avec... je ne vais pas le dévoiler, parce que sinon le public ne viendra plus. Mais voilà, il y a un fil conducteur comme une sorte de machine à remonter le temps pour qu'effectivement, le public parisien qui éventuellement ne connaît rien à l'histoire... Hein, ou ne connaît pas du tout la fin, on va dire, puisse voilà.
Il y a une voix off qui permet de se répéter.
Ah non, absolument pas.
Pas du tout.
Non, mais moi je fais du théâtre. Hein.
Je fais pas de la voix. On a nos propres voix.
Mais parce qu'il y a marqué Christophe, il y a marqué l'Étoile des Bergers, animation, spectacle de Noël en soi. Donc on n'est pas obligé de se dire que c'est du théâtre.
Effectivement, il y a deux choses en l'une. Depuis 15h, nous accueillons déjà le public sur place, sur la place Dauphine, où il y a de 15h jusqu'à 17h. Les moutons qui sont en démonstration, il y a les musiciens qui vont jouer sur la place, il y aura des démonstrations de danse d'Israël, etc. Ça anime, donc les gens savent qu'ils peuvent passer leur après-midi superbe. Voilà. Et à 17h précise, est lancé le spectacle. Voilà. C'est à 17h précise. Pourquoi à 17h ? Parce que nous attendons la tombée de la nuit, car il y a beaucoup de jeux de lumière, un peu comme dans la cinécine.
Très important.
Voilà, il y a des jeux de lumière, donc on profite de la tombée de la nuit. Évidemment, bien sûr, pourquoi ? Parce que ça va être la nuit de Bethléem. Mmh. Et la nuit de Bethléem ne va pas se faire en plein jour. Voilà, donc il va y avoir des effets, même des effets pyrotechniques. Voilà. Mais je n'en dis pas plus parce que...
Combien de temps dure le spectacle ?
Le spectacle dure 40 minutes environ. Plus ou moins en fonction du temps que prendront nos petits moutons pour faire une mini transhumance. Car les moutons vont venir de loin. On va les voir arriver avec leur chien de berger pour effectivement qu'ils donnent vraiment cette interaction entre les acteurs, le public et même les animaux qui pour moi sont des vrais acteurs.
Et donc vous vous lancez en fait, c'est une question que je voulais poser dès le départ, vous vous lancez à Paris, est-ce que ce n'est pas un peu audacieux de se lancer à Paris ? Est-ce que vous avez testé ou vous auriez pu tester votre spectacle à d'autres endroits pour voir si des améliorations ? Parce qu'il n'y a que deux représentations.
Il faut vraiment
être là.
Il ne faut pas louper son samedi 22 ni son dimanche 23. Ça n'aura lieu qu'une fois cette année.
Samedi et dimanche, oui, j'entends bien. Les deux jours, mais il faut être là le week-end prochain, absolument.
Et même, il vaut mieux venir deux jours, parce qu'on va être tellement ébloui par ce qu'on a vu samedi, on va revenir dimanche pour voir le spectacle.
Mais il y a une part de risque, parce que vous n'avez jamais testé votre spectacle en public.
Non, bien sûr. Ce spectacle, en tous les cas, il n'a pas été joué précédemment, mais notre compagnie de théâtre... À 15 ans d'expérience d'événementiel, on va dire, théâtral d'extérieur, c'est une chose qu'on maîtrise bien. Il y a deux ans, nous avons joué un spectacle à Limoges, alors qui s'appelait Yeshua. Et voilà, qui était également un spectacle en extérieur. Alors, le spectacle en extérieur a toujours des petits aléas, mais là, croyez-moi, on les maîtrise bien. Et le public va vraiment être ébloui samedi 22, dimanche 23. Et il peut d'ailleurs aller se rendre sur notre site internet www.animation-spectacle-paris.fr. Il va aussi sur le Twitter hashtag crèche vivante Paris. Voilà. Faites des tweets.
On va parler de ce spectacle toujours jusqu'à 8h30 aujourd'hui pour bien prendre la mesure de ce qui se passera ce week-end prochain. On ne vous connaît peut-être pas assez bien, Christophe Hoche-Duval. Vous avez été officier de marine pendant 10 ans, réalisant votre rêve d'enfant, devenir officier sur la Jeanne. Aujourd'hui, vous êtes membre du Conseil d'État, soumis à un certain devoir de réserve, donc on n'en parle pas ce matin, ça n'a rien à voir avec cette activité, l'étoile du berger. Mais comment vous êtes-vous lancé dans le spectacle vivant consacré à Jésus et aux évangiles ? Votre portrait, Marion Duchesne.
Depuis une quinzaine d'années, pour m'évader de mon travail, je participais déjà à des spectacles vivants, raconte Christophe Hoche-Duval. Le déclic, il l'a en découvrant la cinécénie du Puy du Fou et en replongeant dans les textes de l'Évangile, des textes que Christophe Hoche-Duval veut à tout prix mettre en scène avec la nature pour seul décor. C'est ainsi que son premier spectacle, Yeshua, Jésus en araméen, voit le jour. J'ai vécu une reconversion à la manière de Nicodème, explique ce baptisé issu d'une famille catholique. Je suis re-né. Un bouleversement intérieur qu'il raconte dans son livre « Vous serez dans la joie », le coming out chrétien d'un haut fonctionnaire paru aux éditions Arthège. Dès lors, accompagné de son épouse, le magistrat n'a qu'un objectif, se mettre au service de celui qu'il appelle son coach, Jésus. Mettre en scène la vie du Christ m'a permis de sortir de mon état gazeux de chrétien dilué dans l'eau du système. Je voudrais que l'on ait le courage de nos convictions, souligne Christophe Hoche-Duval. Si on est chrétien, on le dit. Très attaché à la parabole des talents, le haut fonctionnaire le répète. Nous aussi, nous devons être dans la rue. Mieux, il appelle les prêtres à devenir des entrepreneurs pour faire sortir les fidèles, les accompagner dans l'extériorisation de la foi. Et Christophe Hoche-Duval de conclure, il faut sortir des églises.
Et bien justement, c'est ce qu'il fait avec donc ce spectacle Place Dauphine, samedi et dimanche prochain à partir de 15h. Spectacle monumental, spectacle animé, crèche vivante, des animaux, des comédiens, de la musique, de la pyrotechnie. Enfin, il faut absolument y être. Christophe, est-ce qu'il n'y a pas une volonté de répondre à la polémique qu'il y a eu il y a quelques années sur les crèches dans les bâtiments publics ? Vous vous souvenez ça ? Et puis vous qui êtes conseiller d'État, vous n'êtes certainement pas étranger à cette question.
Oui, je, évidemment, c'est... voilà. Bien sûr, je suis tenu au devoir de réserve et vous ne me ferez pas commenter ni les décisions de justice en cours. Mais néanmoins, je ne me déroge jamais à aucune question, surtout d'un journaliste talentueux comme vous.
Monsieur Gentil, Christophe.
Voilà. Et donc, effectivement, cet arrêt que le Conseil d'État a rendu en 2016, commune de Melun, est très important à lire. Mais il est très important à lire aussi pour ce qu'il ne dit pas. Et je voudrais faire son interprétation rapide. Alors, devant les auditeurs, parce qu'il y a une affaire récente là, à Béziers, pour ne pas la citer. Ce que cet arrêt dit, il ne le dit qu'aux personnes publiques. Les mairies, les départements, les régions et l'État. Et il leur donne beaucoup de marge. Il leur dit, vous pouvez éventuellement faire des crèches statiques, pas vivantes, dans vos mairies, dans vos hôtels de ville, dans vos hôtels de département. Ce n'est légalement possible que lorsque cela présente un caractère culturel, artistique ou festif. C'est aux maires de faire en sorte que la crèche qu'ils présentent dans leur mairie ait ce caractère culturel, artistique ou festif. Voilà. Et ce que l'arrêt du Conseil d'État ne dit pas, mais dit en creux, c'est que pour le reste, il y a la liberté cultuelle. Et bien sûr que les prêtres et les pasteurs peuvent faire une crèche statique sur le parvis de leur temple, sur le parvis de leur église. Qu'ils le fassent. Et ce qu'il dit aussi, c'est qu'il dit la liberté culturelle. Donc, que les théâtreux, que les clubs de théâtre, que les associations théâtrales, que les troupes de théâtre, elles fassent des crèches vivantes, y compris dans la rue, c'est la liberté artistique.
Christophe Hoche-Duval, c'est un arrêt pour rien alors, parce que c'est une façon de dire qu'en fait, à partir du moment où vous mettez le label culturel, vous pouvez tout faire.
Pas tout à fait. C'est un arrêt pour dire, vous autres chrétiens, faites ce que vous avez envie de faire, demandez pas forcément à la collectivité publique de vous le financer. Mais pourquoi ne faites-vous plus de crèches vivantes ?
Vous avez de l'argent public, là ?
Pourquoi ne faites-vous plus de crèches devant les parvis des églises ? Non, nous n'en avons pas demandé. Nous aurions pu, effectivement, peut-être que, parce que c'est une crèche vivante que nous jouons, le dossier aurait été compliqué, lent, etc. Ils n'ont pas pris ce risque. Voilà. Nous avons préféré faire appel.
Donc pas d'argent public.
Non, mais
on reviendra à la question financière.
Mais
tout
nous aurions pu, parce que rien n'aurait interdit en soi, et je répète encore une fois, que le maire de Béziers, rien ne lui aurait interdit légalement qu'il verse une subvention à un club de théâtre de Béziers pour jouer une crèche vivante sur place publique de la mairie. Je l'affirme.
Et ainsi de suite pour toutes les religions. Voilà. Vous êtes d'accord,
Et pour toutes les religions, évidemment. Et moi, je préfère nettement la crèche vivante à la crèche statique. C'est-à-dire que le santon, qui est le facteur d'Alphonse Daudet en terre cuite, je trouve que vous autres chrétiens, ce n'est pas le message qui vous est envoyé. La crèche vivante, elle fait passer un message qui est très différent.
Quelle est la différence?
La différence, c'est que le facteur d'Alphonse Daudet, il n'exprime pas la joie que le Messie va naître, ou qu'il est né. Tandis que la crèche vivante, permettez-moi de dire, c'est l'incarnation de l'incarnation. C'est-à-dire que l'incarnation qui est celle auquel croient les croyants, Jésus vient en petit homme, en petit Jésus, et dans la paille, dans la bouse de vache, eh bien, des acteurs vont répéter ce même geste, ils vont l'incarner. Et le public, il va comprendre toute cette histoire de Saint-Luc et de Saint-Matthieu.
Céline, Saïd, c'est la première fois que vous êtes immergée dans un spectacle de cette nature-là.
J'ai eu l'occasion de participer à pas mal de spectacles.
Parce que les évangéliques sont quand même très présents en termes de spectacles. Hein.
C'est qui les évangéliques? Non, effectivement, quasiment dans toutes les paroisses aujourd'hui évangéliques, il y a ce qu'on appelle, je dirais, des fêtes de Noël qui sont vivantes, hein, qui ne sont pas du tout... Ouais,
alors que chez les cathos, c'est plutôt récent. Oui. Enfin, ou exceptionnel.
Non, ça c'est une tradition, en tout cas dans les milieux évangéliques. Et puis il y a en tout cas des fêtes de Noël, on en a en tout cas pas mal, surtout sur la période de décembre. Après, derrière ce message, c'est vrai, c'est de faire revivre, hein, c'est l'incarnation dans l'incarnation, un message qui est d'actualité. Non seulement c'est une vérité historique, mais je dirais dans les milieux évangéliques, c'est une expérience qui est d'abord personnelle, hein, donc la naissance du Christ. Et le fait de pouvoir se retrouver justement avec la diversité des différents acteurs, moi jouer avec un musulman, Mohamed, c'était qui joue le rôle de Joseph.
Joseph, c'est un musulman qui joue Joseph.
Ouais. Tout à fait, c'est quand même fou. Hein. Se retrouver avec Joseph, je dirais, qui est d'origine, qui est d'obédience en tout cas musulmane, et moi qui suis en tout cas protestant, évangélique.
Et c'est d'abord un grand
très
comédien.
Intéressant. C'est oui, c'est un grand artiste, un grand comédien. Et d'être aussi avec Céline, parce que le public va être surpris de voir notre belle Marie.
Je n'en dis pas plus.
Oui, oui, moi aussi, j'en dis pas plus. Et elle a une voix aussi qui porte, qui est vraiment magnifique. Et moi, chaque fois que je l'écoute chanter, surtout en hébreu, je me convertis à chaque
Marie
Noël
voilée.
Quasiment.
Marie est voilée.
Elle est dévoilée, là.
Dévoilée. Alors là, elle est dévoilée, mais voit, si je puis dire.
Oui. Elle sera,
comme d'habitude, mais...
Elle sera en costume de l'époque de Jésus. Tous les costumes viennent d'ailleurs des ostensions de Saint-Julien. Je les remercie au passage. C'est des costumes magnifiques.
Allez, on va se quitter quelques instants. Christophe H. Duval, Céline Rondol, Saïd Oujibou. On parle du spectacle événement qui a lieu samedi et dimanche prochain, 15h, place Dauphine, île de la Cité. On va se retrouver, il y a encore beaucoup d'éléments à partager ensemble sur cet événement de Noël auquel vous êtes certainement sensibles. Vous pouvez participer sur les réseaux sociaux d'ailleurs. On vous a posé une question. Allez voir tout de suite.
Le grand témoin, la rediffusion.
Cette voix que vous entendez, vous allez l'apprécier samedi et dimanche prochain. C'est la crèche vivante, l'animation spectacle, l'étoile des bergers. C'est la voix de la Sainte Vierge, figurez-vous. C'est Céline qui est présente avec nous, qui l'interprète, comédienne amateur. Et c'est en quelque sorte une exclusivité, une première, puisque la Sainte Vierge chante le Magnificat en hébreu. C'est la volonté du concepteur du spectacle, Christophe H. Duval. Ce spectacle, donc, je le rappelle, c'est dans le premier arrondissement à Paris, île de la Cité, place Dauphine. Et c'est un événement dont nous parlons avec Christophe H. Duval, Céline Rondol et Saïd Oujibou qui participent à cet événement. Alors on sera en ligne d'ailleurs dans quelques instants avec un autre intervenant qui soutient cet événement, présidente nationale de l'Association des guides et scouts d'Europe, Claire Verdier, qui nous dira tout le bien qu'elle en pense. Et nous on est là aussi pour le promouvoir pour une raison aussi, j'allais dire, qui est tout à fait évidente et que vous allez nous expliquer, Christophe. Parce qu'il y a la question... peut-être un peu trivial, mais du financement d'un spectacle comme celui-là. Et il vous est arrivé une déconvenue. Et on s'est dit, quand on s'est parlé, « Ah bah écoutez, vous allez venir en grand témoin, puis on va voir ce qu'on peut faire. » C'est ça ? Expliquez-nous.
Oui, effectivement, je vous remercie de donner la parole sur ce sujet. Notre spectacle était en partenariat avec les vins de Bethléem. Pourquoi ? Parce qu'il faut nous chercher effectivement des sources de financement. Les sponsors que j'ai cités et d'autres ne suffisent jamais complètement. Le public ne suffit jamais complètement non plus. Bien sûr, on appelle à la demande de générosité.
C'est gratuit, hein, j'ai précisé.
Voilà.
Hein.
Le spectacle est gratuit, mais voilà, bien sûr, le spectacle est gratuit, mais il a un coût. Il a un coût, c'est la générosité, bien sûr, de chacun et autres à permettre de le financer. Et nous pensions aider à la fois les chrétiens de Bethléem, de Cisjordanie, et nous aider aussi en même temps en faisant une vente de vin de Bethléem. Alors, il y a vraiment du vin à Bethléem. Il y a un monastère viticole à Crémisan, c'est à 2 km du centre-bourg de Bethléem, qui produit encore du vin à un coteau de Bethléem. Nous sommes entrés en relation avec eux il y a plus d'un an, en leur disant, on va monter tous les Noëls une opération qui va faire de l'ombre au Beaujolais nouveau. Ce sera le Bethléem nouveau au mois de décembre dans toutes les paroisses de Paris. Et on va vous aider parce que eux, avec leur vente de vin...
Il est conseiller d'État, mais il aurait dû être prof en marketing.
Bon vendeur, mais... Hein, le marketing,
non, mais c'est très important. Là. Bethléem s'asphyxie économiquement à cause du mur.
Oui. Ah, c'est
terrible, et hein, les frères salésiens, qui sont les frères viticulteurs de ce vin de Crémisan, ils aident les petites écoles, ils aident les enfants, ils aident des orphelinats avec cette recette. Malheureusement, je dois lire aujourd'hui, puisque le communiqué est passé à l'AFP, le conteneur de ce vin est aujourd'hui, depuis le 1er décembre, bloqué en douane à Hambourg. Nous ne pouvons rien faire pour le débloquer. Son dédouanement n'est pas annoncé encore avant 2 semaines. Et j'ai dû prendre, hier soir, avec l'importateur, la décision dramatique d'annuler l'opération.
Pourquoi ? On ne sait pas.
Pourquoi ? Alors, les raisons officielles sont un contrôle sanitaire communautaire d'un vin qui vient d'un pays tiers. Moi, je ne peux pas l'avancer. Je suis très prudent, mais je pose la question de savoir si cet effet de zèle vient du fait que le vin provient de Cisjordanie ou voire d'Israël. Vous savez qu'il y a des appels à boycotter. En tout cas, des appels peut-être qui peuvent être entendus. Je ne peux pas l'affirmer, mais en tous les cas, c'est inédit que ce vin est bloqué depuis le 1er décembre à Hambourg et nous privera de son arrivée pour le spectacle. C'est évidemment une perte cruelle. Nous allons rembourser, bien sûr, toutes les personnes qui avaient généreusement acheté des caisses de vin. Et je pense que nous ne pourrons pas en rester là. Nous referons cette opération, peut-être en prenant en compte que la douane, des fois, peut être lente. La douane allemande, je précise, pour ne pas vexer nos amis douaniers français. Et voilà, c'est un crève-cœur.
Pourquoi le vin n'est-il pas arrivé en France, en fait ? C'est une question
Alors,
qu'on
ça,
peut vous poser.
Alors ça, c'est pas notre affaire de client. Effectivement, l'importateur choisit la voie qu'il souhaite pour faire arriver le vin d'Israël en Europe. Il se trouve effectivement qu'aujourd'hui, de plus en plus de bateaux vont à Rotterdam ou à Hambourg et pas forcément au Havre. Voilà, ça, c'est pas notre, malheureusement, notre sujet.
Alors, ce vin était censé donc faire l'objet de ventes de Noël, particulier le 9 décembre ?
En particulier, il aurait dû être vendu le 9 décembre dans des paroisses, le 16 devant la cathédrale de Notre-Dame.
C'est ça, ça n'a pu avoir lieu.
Et devant notre, au jour de notre spectacle, le 22-23, il ne sera pas là. Nous ne pourrons pas déguster le vin de Bethléem. Je souhaite que ce soit partie remise. Je présente encore mes excuses auprès de ceux qui avaient acheté ce vin. Ils seront remboursés. Bien sûr, c'est très cruel pour nous. Je crois que c'est encore plus cruel pour les enfants de Bethléem. Et ce soir, ce matin, j'ai vraiment de la peine pour eux parce que c'était une double opération. La Sainte Crèche allait aider une crèche vivante à Paris et la crèche vivante de Paris allait aider les habitants qui sont auprès de la Sainte Crèche de Bethléem. Et oui, il y avait du sens.
Saïd Djibou, Céline Randol.
Moi, je regrette amèrement, en tout cas. J'aurais bien voulu goûter ce bon vin de Bethléem.
Bon, ça sera pour la prochaine fois, parce qu'on peut imaginer que ce spectacle...
Ah, Pâques,
parce que,
peut-être.
Oui, précision quand même, le spectacle n'est pas annulé, hein, pour autant.
Absolument.
C'est pas parce que le vin n'est pas arrivé que le spectacle n'a pas lieu. Hein. N'allez pas comprendre cela. Il y a bien le spectacle à partir de 15h.
Les raisons de plus étaient encore plus nombreux.
Céline.
Mais justement, c'est apporteur de sens. Et c'est là, c'est aussi l'intérêt. Enfin, par exemple, le fait de chanter le Magnificat en hébreu, voilà. Il y a une vraie recherche de sens, il y a une vraie recherche du sens profond du spectacle, du rapport aux racines même de la crèche. Donc c'est terriblement dommage et j'espère vraiment que cet appel que Christophe vient de passer sera vraiment entendu. vraiment.
Alors l'appel a déjà été entendu par Claire Verdier des Scouts d'Europe, non Christophe?
Absolument. Alors nous n'aurions pas réussi ce spectacle si je n'avais pas eu le concours, même j'allais dire presque professionnel, hein, des Scouts d'Europe. Claire le racontera, il y a des compétences artistiques chez les Scouts d'Europe. Il y a des routiers Scouts d'Europe qui seront présents au spectacle. Nous devons vraiment un grand coup de chapeau à la GESE.
Alors, Claire Verdier est avec nous, justement. Bonjour, Claire.
Bonjour, Louis.
Merci d'être à nous ce matin. Expliquez-nous quels sont les savoir-faire que vous avez mis en œuvre au service de cette crèche vivante qui a lieu donc samedi et dimanche prochain à Paris.
Alors, au sein des Guides et Scouts d'Europe, il y a ce que nous appelons les équipes techniques nationales qui ont des compétences, voire une expertise sur des domaines bien précis. Et là, on a mis au service, effectivement, de la crèche vivante nos équipes de logisticiens, de son, de lumière, et puis et puis d'autres détails plus pratiques. Effectivement, nous sommes entendus sur la structure de la scène, sur le son, la lumière, les toilettes sèches, et puis le service aux animaux au travers effectivement du service des routiers du camp de Paris.
Combien de scouts sont-ils, ou guides d'Europe, hein, sont-ils mobilisés?
Alors là, bien précisément...
Difficile à dire.
Il y a eu tout un travail en amont. Après, je sais qu'il y a le camp de Paris, et après, en termes d'équipe technique, je pense que Christophe est plus au courant.
Oui, c'est ça, près d'une trentaine, nous dit Christophe et H. Duval, hein, précisément. Voilà. Et quel est le sens que vous donnez, Claire Verdier, à un événement de cette nature-là?
En fait, nous, le sens pour notre association, c'est vraiment de répondre dans un esprit de service à une mission d'évangélisation qui nous anime tous. Et donc il se trouve qu'en plus, on est quand même extrêmement attaché au sens du concret. Et là, pouvoir figurer effectivement l'incarnation de notre Dieu au travers d'une crèche vivante, on se dit que ça peut être aussi une entrée pour découvrir le Seigneur.
Le fait de participer à un spectacle, de se mettre en scène, d'être des comédiens, ça demande des compétences particulières. Ça paraît inaccessible à peut-être beaucoup de gens qui peuvent être inhibés par cela. Mais vous, ça ne vous a pas empêché d'y aller, Claire?
Moi, personnellement, je ne dirais pas. Mais effectivement, nous avons un certain nombre d'artistes qui sont au sein de ces équipes techniques nationales, qui travaillent au cœur de toute notre branche animation. Effectivement, eux, ça ne les a pas du tout inquiétés parce qu'il y a effectivement des équipes qui sont particulièrement attachées à la danse, par exemple, et qui vont compléter l'équipe danse de la crèche vivante. Et puis, il y a surtout essentiellement des techniciens ou des experts justement pour apporter le support discret pour que le spectacle puisse se donner en sécurité, qu'il soit visible et audible.
Voilà. Merci beaucoup Claire Verdier, présidente nationale de l'Association des Guides et Scouts d'Europe, qui apporte donc son soutien, on l'a bien compris, logistique, avec une trentaine de personnes qui vont être l'armature aussi de ce spectacle. Merci d'avoir été des nôtres ce matin, Claire Verdier. Parce que en tout, ça mobilise combien de personnes quand même, Christophe H. Duval? Parce que si les scouts, ils sont déjà 30, et puis alors les comédiens, plus tous ceux qui... Qu'est-ce que vous faites avec votre gilet jaune?
Alors justement, comme vous me demandez combien il y aura de personnes, alors au total, ça mobilise près d'une centaine. Une centaine de bénévoles.
Alors, Christophe Duval met son gilet jaune. Alors,
je mets un gilet jaune parce que je lance un appel. Voilà, c'est l'appel du 18 juin.
Mais à l'époque de la crèche, c'était plutôt des moumoutes qu'on portait.
Alors, c'était des moumoutes. Mais là, justement, je mets mon gilet jaune parce que la chose suivante. Nous avons encore besoin de gilets jaunes. Il s'est trouvé 200 000 gilets jaunes.
Ça, on va en avoir des milliers.
Attends, écoute Saïd. Il s'est trouvé 200 000 gilets jaunes pour appeler à lutter contre le dieu fiscal. On est d'accord? Ou contre le dieu Jupiter. Je ne cite pas davantage son nom.
Pour détrôner
voilà.
Jupiter.
Il nous manque encore 50 gilets jaunes pour venir défendre le petit Jésus de la crèche et le protéger. Donc, je lance un appel solennel à la radio. Nous avons besoin encore de gilets jaunes pour venir, non pas pour manifester pour le dieu fiscal ou contre le dieu fiscal ou pour le dieu Jupiter ou contre le Jupiter, mais simplement contre le petit dieu de la crèche qui s'appelle Jésus. Mais merci, merci d'entendre cet appel à tous les auditeurs.
Nous donnons rendez-vous le 22 et le 23.
Et faites passer votre demande de volontariat via Radio Notre-Dame.
Non, mais sérieusement, vous faites appel aux Gilets jaunes, mais c'est plutôt, enfin, à Paris, c'était plutôt des perturbateurs, etc. Non, c'est plutôt un risque pour votre spectacle, non ?
Non, mais je lance cet appel, évidemment, pour trouver des bénévoles pour faire la sécurité et compléter nos équipes actuelles. Parce qu'effectivement, il faut que tout ça se passe dans de très bonnes conditions, familiales, festives. On est sur l'île de la Cité, il n'y a pas plus protégé. Et donc, je vous dis à tous les auditeurs, surtout, n'écoutez pas ce que racontent les radios. Il faut sortir, voilà, il faut sortir, il faut faire de la culture. Oui. Et il ne faut pas écouter les oiseaux de mauvaise augure qui disent « restez chez vous ». Alors, les théâtres, actuellement, sont en train de crever. Parce qu'on dit aux gens de ne pas sortir. C'est dramatique.
Oui, les marchés de Noël.
C'est absolument dramatique. Mais sortez, vous n'avez rien à craindre. Mmh. C'est une belle journée. On vous êtes de celui de la Cité, il n'y a pas mieux. Et puis après, vous aurez à 10 minutes la cathédrale, vous pourrez vous y balader.
Il y a des questions, des remarques sur la page Facebook, le site de Radio Notre-Dame. Alban Barthélémy, on avait posé une question. Êtes-vous sensible aux crèches vivantes ?
Eh bien oui, êtes-vous sensible ? Aimez-vous les crèches vivantes ? Je pense qu'on est dans le sujet avec votre discussion ce matin. Eh bien, sur les réseaux sociaux, Louis, il y a les deux camps. C'est merveilleux d'abord, nous dit l'ami 75. Et puis non, je ne les aime pas du tout, nous dit Chantal. Voilà, ce sont des avis tranchés.
Et pourquoi ?
Eh bien, elle ne l'explique pas, donc je ne pourrais pas vous le dire. Mais
Chantal, je t'invite, viens.
Alors, par ailleurs, Christine insiste sur le fait que la crèche est le symbole de Noël et pour elle, cela semble important. Romain nous dit que la crèche n'est pas l'essentiel. Un beau spectacle, pourquoi pas, explique-t-il. Mais Noël, c'est d'abord la venue du Christ, pas la venue de la crèche. Et enfin, Fabrice
souhaite... c'est un petit peu tordu, ça, parce que la crèche illustre la venue.
Écoutez, je vous mettrai en contact avec Romain, vous discuterez avec
Romain,
lui sur Facebook, Louis. Et enfin, Fabrice, vous souhaite une sainte journée et espère que vous aurez beaucoup de monde pour ce spectacle.
Merci Fabrice.
Il y a une question, alors peut-être Céline, Saïd, Christophe, sur ce spectacle. Dans les pays du Nord ou les pays germaniques, c'est une coutume assez fréquente. C'est, en France, peut-être c'est moins implanté ou alors peut-être plutôt dans le Sud. Alors vous n'êtes pas à votre premier spectacle, Christophe. Oui. Donc il y a des pays qui sont quand même plus propices à ce genre de tradition.
Alors c'est vrai. D'abord, premièrement, il faut rendre hommage à François, Saint François, l'apôtre des pauvres. C'est une très grande relation du fait que c'est lui qui a créé la première crèche vivante. C'était en 1223 à Greccio. Et en Italie, il y a beaucoup de presepe vivente, c'est-à-dire de crèches vivantes. Il y a des villages qui sont comme le Puy du Fou, qui tout le village se met à jouer les comédiens, les acteurs, et qui jouent devant les touristes aussi. Mmh. Hein, voilà.
En Allemagne aussi.
Et en Allemagne aussi, c'est effectivement plus... En France, ça a décliné, effectivement, c'est l'effet Révolution française qui a fait que la crèche à la maison s'est créée à ce moment-là. Puisqu'on ne pouvait plus rien faire dans la rue ou devant les parvis d'église, les mystères ont été stoppés, etc. Donc les gens ont créé leur crèche dans leur maison, comme une sorte de liberté de conscience. Voilà. Et ça n'a pas repris. Oh, il y a quelques crèches vivantes qui sont de ci, de là. Il y a des crèches vivantes qui sont mimées par les enfants de l'aumônerie ou du caté. Bon. Mais bon, ce n'est pas exactement non plus ce que nous allons jouer. Voilà. 50 comédiens, 50 artistes, du son, de la lumière, des effets. Bon, on est à un autre rapport, mais ce n'est pas grave. Il faut, moi, je souhaite qu'il y ait pas une crèche vivante en France, mais qu'il y en ait 1000. Voilà. Si vous autres chrétiens, je dis vous autres parce que, encore une fois, je suis directeur d'une compagnie de théâtre qui ne demande pas son acte de baptême. Donc, moi, voilà. Mais je vous dis à vous, auditeurs, à vous, radio chrétienne, si vous ne refaites pas des crèches vivantes devant tous les parvis d'église, bah, écoutez, je crois que vous pouvez remballer vos santons en plâtre et en bois.
Il y a un enjeu de visibilité dans l'espace public. C'est pour cela qu'on en parle.
Eh oui, c'est pour ça.
Précisément. Est-ce que ça ne fait pas un petit peu peur aujourd'hui à beaucoup de gens qui vont se dire « Oh là là, mais ça veut dire que le religieux revient en force et finalement veut mettre son empreinte ?» Céline, qu'est-ce que vous pensez de ça ?
Justement, tout à l'heure, vous disiez que dans les pays du Nord, les crèches vivantes sont plus fréquentes, qu'elles ont peut-être plus pignon sur rue, sûrement. Maintenant, je pense que voilà, le pari de Christophe, et c'est là que c'est audacieux, et vous allez le voir samedi et dimanche, c'est d'aller vers un autre type de conscience, c'est d'éveiller les consciences, je pense, bien sûr, et de permettre de se poser les bonnes questions. Les questions actuelles, des questions, comme il le disait dans son appel, les questions outre les vraies luttes sociales actuelles, de se poser des questions spirituelles, d'aller plus loin dans le spirituel, d'associer le spirituel à la société. Je pense que c'est un pari qui est audacieux Et c'est un pari qui est intéressant. Et voilà, on y prend tous part. On est très heureux d'y prendre part.
Sortir d'un confort bourgeois.
Voilà.
Parce que finalement, il y a une domestication des chrétiens qui peuvent tout faire à la maison, en privé, et puis surtout qu'ils ne se hasardent pas à l'extérieur. Non, c'est ça, Saïd.
Moi, j'ai l'impression.
Enfin, des cadeaux, en tout cas, plus que des protestants.
J'ai juste l'impression qu'en France, en fait, il y a comme un complexe, en fait. On est en train d'écrire aujourd'hui l'histoire de la France avec une gomme. Et pourtant, j'ai quand même, je dirais, cette réalité devant mes yeux, c'est qu'il y a quand même un héritage qui est là, qui est réel. Il y a un héritage qui est judéo-chrétien. Et il faut qu'on se décomplexe en tant que chrétien et ne pas hésiter, je dirais, aujourd'hui, justement, à jouer, je dirais, ces crèches vivantes, je dirais, de les rendre accessibles et visibles à la population.
Qui ne font jamais que renouer avec une tradition, comme tout on l'a dit tout à l'heure, puisqu'elles ont cessé à Paris en 1939.
1939, ça fait loin quand même. Il serait peut-être temps de contextualiser, d'actualiser un petit peu l'histoire quand même. C'est ce qui fait aussi la force de l'identité chrétienne aujourd'hui.
Si on veut participer au dernier moment, là, il y a peut-être des personnes qui nous écoutent qui disent « Ah, j'aimerais bien faire quelque chose ». Qu'est-ce qu'on peut faire, Christophe ?
Ben d'abord, je relance l'appel à avoir des gilets jaunes.
Voilà, pour la sécurité,
pour la sécurité, bien sûr. Ben, vous savez, des bénévoles, il y en a toujours besoin sur le plateau technique parce que, voilà, on l'a dit tout à l'heure, il y a les scouts qui viennent monter, mais ils arrivent mercredi soir avec un semi-remorque entier de matériel, voilà. Ça veut dire jeudi matin, on est en montage. Bah, s'il y a des monteurs volontaires, des bricoleurs là, qui veulent évidemment donner un coup de main, rendez-vous tous, il y aura le petit café sur la place Dauphine jeudi matin. Oui, donc c'est concret. Hein.
Mais tout le monde ne peut pas s'occuper des animaux, des dromadaires, des moutons,
oui,
etc.
Oui, bien sûr. Voilà. L'organisation, elle est bouclée. Et, voilà, et le public, il doit savoir qu'il a un beau spectacle. Parce que c'est ça qui est important. La crèche vivante que l'on fait, c'est d'abord du beau artistique. Voilà. Chacun des comédiens a pris un texte, il a pris à cœur de jouer son rôle. À elles qui viennent de Limoges, qui viennent de Paris, qui viennent d'un peu partout et qui sont entraînées par une chorégraphe de l'association Bellaricoud. Voilà, on va tous s'immerger complètement dans cet enjeu artistique. Artistique, c'est très important, c'est le public qui va... Bon, on n'est pas le Puy du Fou transporté à Paris, mais ce sera de qualité, voilà, c'est un beau spectacle.
Mais quand même, on y sera. Merci beaucoup à tous les trois, Christophe et Hoche Duval, l'Étoile des Bergers, animation spectacle de Noël, merci Saïd Ojibou,
merci,
qui jouera un notable berger, à Céline Rondol, qui sera la Vierge Marie, dont on écoute la voix à l'instant même pour un magnificat en hébreu, ce qui est exclusif et c'est une première dans la capitale parisienne, dans la capitale française. Animation, spectacle à partir de 15h, samedi et dimanche. Je vous y donne rendez-vous dès à présent et je remercie tous ceux qui voudront bien se joindre à cet événement. Je vous souhaite une excellente journée.